Le journal est présenté par Thomas Larabi.
Bonjour à tous. Près de 40 000 gilets jaunes ont célébré leur premier anniversaire dans la rue hier avec les désormais traditionnels affrontements avec les forces de police. Reportage à Toulouse dans ce journal. À Hong Kong, les manifestations prennent une tournure médiévale. Un policier a été blessé par une flèche au mollet ce matin. Notre correspondant sur place fait le point sur les affrontements en cours autour de l'université de Polytechnique. Et puis en Algérie, la campagne pour les présidentielles du 12 décembre est ouverte et la répression au fur et à mesure que l'échéance approche. Explication à la fin de cette édition. Un anniversaire agité. Entre 30 et 40 000 gilets jaunes ont célébré leur première année dans la rue et sur les ronds-points hier. La plus importante mobilisation depuis mars dernier, ponctuée de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. À Toulouse, près de 2 000 manifestants ont tenté de parcourir le centre-ville sous la pluie et sous un tapis de grenades lacrymogènes. Le défilé pour l'essentiel pacifique a été dispersé à plusieurs reprises par les forces de l'ordre, Stéphane Iglesis.
L'hélicoptère des forces de l'ordre a opéré un suivi des groupes de manifestants éclatés dès le départ du défilé sur les boulevards du centre-ville par une salve nourrie de grenades lacrymogènes. 15 minutes chrono après le départ de la manifestation, première salve, c'est du brutal et ça met Francis en colère.
Ils ont des ordres, ils sont là pour taper. La préfecture nous refuse le droit de manifester. Ils ont l'ordre de nous arrêter coûte que coûte et ça ne s'arrêtera jamais. Il y en a pas un pour relever l'autre. Ils sont là, ils obéissent aux ordres bêtement, sans réfléchir, sans rien.
Laurent lui sort son petit livre rouge, la Constitution française.
Dans les droits de l'homme et du citoyen, il y a la liberté de manifester, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté d'opinion, il y a surtout le droit d'aller et venir. Mais je ne comprends pas de quel droit, aujourd'hui, on m'empêche d'aller et venir dans la ville de Toulouse.
Morgane, qui est de tous les défilés depuis un an, remarque que depuis quelques semaines, la technique, c'est d'éclater le cortège façon puzzle.
Depuis environ 3 semaines, ils ont l'ordre de nous faire peur, je pense. Ils sont beaucoup plus violents, ils gazent, ils viennent au contact, ils nous mettent des coups de matraque. Je pense que le but de la manœuvre, c'est de ne pas nous faire revenir. Le problème, c'est que plus on reçoit, plus on a la haine, hein, et plus on va revenir.
Selon les manifestants, le harcèlement des forces de l'ordre et les lancers de grenades lacrymogènes à répétition ne vont ni apaiser le climat ambiant, ni les décourager de venir manifester.
Et à Paris, de violents affrontements ont eu lieu place d'Italie, d'où la manifestation déclarée n'a pas pu partir. Les manifestants dénoncent un guet-apens de la police. La réponse du préfet Didier Lallement.
D'autres manifestations de gilets jaunes sont encore appelées. Je les traiterai de la même façon. S'il s'avère qu'il y a des destructions, des dégradations, et ces manifestations seront immédiatement suspendues. S'il s'avère que ceux qui veulent y participer n'empruntent pas les itinéraires prévus ou veulent faire autre chose que ce pour quoi ils sont venus manifester, nous mettrons fin immédiatement à ces initiatives malheureuses. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, chacun doit l'exercer, mais il l'exercera avec un minimum de discipline. Il n'est pas possible que des comportements de cette nature se produisent.
La préfecture qui fustige par ailleurs l'attitude scandaleuse de certains manifestants qui ont jeté des pavés sur les pompiers de Paris. Une marche blanche est organisée aujourd'hui en Alsace en mémoire de Sylvie Walter, morte sous les coups de couteau de son mari dimanche dernier. Elle est la 131e victime de féminicide cette année, un chiffre qui augmente dramatiquement puisqu'on comptait 121 féminicides sur toute l'année 2018. Alors que l'hôpital crie sa détresse et attend des annonces d'Edouard Philippe mercredi, France Asso Santé publie une enquête alarmante ce matin dans le JDD. Elle montre que 2/3 des Français ont déjà renoncé à des soins pour des raisons d'argent ou de déserts médicaux. Et c'est en partie pour cela que certains finissent aux urgences, le dernier endroit gratuit et allumé même en pleine nuit. Les explications de Véronique Julien.
63% des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières, à cause d'un reste à charge trop important ou une impossibilité d'avancer les frais, surtout chez les jeunes et les revenus nets inférieurs à 1500 euros. Pour des raisons d'accès aux médecins aussi, avec des délais de rendez-vous trop longs ou tout simplement un manque de médecins pas trop loin de son domicile. Un quart des personnes interrogées expliquent qu'il leur faut plus de 3 mois de délai pour un rendez-vous en dermatologie. Et en termes de distance, les Français habitant la campagne expliquent mettre près d'une heure pour pouvoir se rendre chez l'ophtalmo. Sur le coût de l'accès aux soins, 67% des Français se disent couramment confrontés à du dépassement d'honoraires. Un renoncement aux soins qui a ses conséquences, anxiété, angoisse, majoration des symptômes, hospitalisation d'urgence. Les urgences comme dernier abri, ces 2 dernières années, le manque de médecins, relève l'étude, a déjà conduit 20% des Français et 25% des malades chroniques à se rendre aux urgences pour une prise en charge. Les maisons médicales de garde, auxquelles on peut se rendre aussi en cas d'urgence, restent assez méconnues. connu. La moitié des personnes interrogées n'en ont jamais entendu parler.
Les précisions de Véronique Julia. Il n'y a plus de compagnon de la chanson. Fred Mella, dernière pièce du groupe vocal, très populaire entre les années 50 et les années 70, est mort hier soir à l'âge de 95 ans. Le ton continue de se durcir à Hong Kong. Ce matin, un policier a été blessé à la jambe par une flèche. Depuis plusieurs jours, les manifestants utilisent un arsenal typiquement médiéval avec des catapultes artisanales, des arcs et des flèches enflammées. Ce matin, c'est l'université polytechnique qui est au cœur des tensions à Kowloon, en face de l'île d'Hong Kong. Une intervention est en cours avec tir de gaz lacrymogène, Dominique André.
L'université polytechnique de Hong Kong est l'un des derniers bastions de la lutte des étudiants. La nuit dernière, la police a tenté de les déloger à l'intérieur du campus qu'ils occupent depuis plusieurs jours. Ce matin, elle intervient de nouveau à coups de gaz lacrymogène. L'opération est musclée. Autour du campus, les routes sont bloquées, jonchées de briques. Des habitants soutenant le gouvernement chinois ont tenté d'enlever des barricades mises en place par les manifestants, mais les étudiants les ont empêchées. La poudrière de Polytechnique Hong Kong est devenue une priorité pour la police qui veut mettre un terme à l'occupation du campus. Les autorités ont ordonné l'arrêt du recyclage des bouteilles en verre utilisées par les manifestants pour fabriquer des cocktails Molotov. Ce matin, les autorités locales ont annoncé que toutes les écoles publiques, de la maternelle au collège, resteront fermées lundi. Aujourd'hui, une journée de prière est organisée dans l'île.
Une correspondance de Dominique André depuis Hong Kong. 4 nouveaux morts dans des manifestations en Bolivie. Le bilan est désormais d'au moins 23 morts et plus de 120 blessés depuis fin octobre et le début de la crise qui secoue le pays. La sénatrice Jeanine Agnès, au pouvoir depuis le départ du président déchu Evo Morales, a autorisé jeudi la participation de l'armée dans le maintien de l'ordre tout en l'exonérant de responsabilité pénale. La situation bolivienne qui donne un second souffle à la contestation au Venezuela. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans les rues hier à l'appel de l'opposant Juan Guaido. Une première depuis le 1er mai, la tentative de coup d'état avortée contre le président Nicolas Maduro. En Iran, le guide suprême Khamenei soutient la décision d'augmenter les prix de l'essence. Hier, les manifestations ont fait un mort après l'annonce du gouvernement d'une augmentation de 50% du prix à la pompe et la limitation à 60 litres par mois par véhicule. De quoi provoquer la colère populaire avec des manifestations dans une quarantaine de villes, des bâtiments incendiés et des routes bloqué. L'Iran, qui subit une situation économique difficile, aggravée par les sanctions américaines l'an dernier. C'est aujourd'hui que s'ouvre la campagne électorale en Algérie. 5 candidats, dont 2 anciens premiers ministres, se présentent pour le scrutin présidentiel du 12 décembre prochain. Un scrutin convoqué suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika qui a cédé face au mouvement de protestation. Si la contestation n'a pas faibli depuis le mois de février, la répression, elle, en revanche, se durcit à l'approche de la présidentielle. Les explications de Valérie Crova.
Atteinte à l'unité nationale ou au moral de l'armée, telles sont les charges dont plusieurs dizaines d'opposants et activistes doivent répondre ces dernières semaines. Et plus le scrutin présidentiel se rapproche, plus les autorités algériennes se crispent. Des autorités déterminées à élire au plus vite un nouveau chef de l'État, contrairement aux manifestants qui auraient voulu un nouveau report. Eric Goldstein de Human Rights Watch.
Ce qu'on constate, c'est qu'on cible davantage les personnes connues pour leur activisme, font face à des lourdes accusations et condamnées à des peines allant jusqu'à 10 ans.
Les dirigeants du mouvement Irak sont dans le viseur des autorités. Leurs activités sont suivies par une brigade de cybercriminalité qui les traque sur les réseaux sociaux quand ils ne sont pas placés sous les verrous. D'autres groupes sont également étroitement surveillés.
Certains ont été condamnés rien que pour avoir brandi le drapeau amazigh, le drapeau de la communauté berbère. Ce drapeau n'a jamais été l'objet de poursuites dans le passé.
Signe de ce durcissement, la justice algérienne a condamné récemment 22 manifestants à 6 mois de prison ferme pour avoir arboré le drapeau berbère.
Les explications de Valérie Crova. Au Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa s'envole vers la victoire au présidentiel. L'ex-militaire de 70 ans, surnommé Terminator, était cette nuit largement en tête des premiers décomptes. Le clan des Rajapaksa a déjà gouverné le pays d'une main de fer entre 2005 et 2015. Venise, toujours en danger, placée en état d'urgence. La cité italienne redoute une nouvelle montée des eaux. Aujourd'hui, la troisième en moins d'une semaine. Depuis mardi, l'eau a envahi les bâtiments de ce joyau classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'inondation à près de 80%. Un mot de la météo, le temps ce matin, un ciel plutôt clément. On regrette seulement quelques gouttes de pluie en Alsace, sur la pointe bretonne, en Corse et dans les Pyrénées. Côté température, comptez 4 à Metz, 7 à Paris et Lille, 9 à Brest et 12 à Perpignan.